Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
En 2016, mon éminent invité a publié un article intitulé « L'évolution de la propriété immobilière sur les 30 prochaines années », ce qui nous conduisait en 2046. Et il évoquait notamment, dans un univers conformiste peu encombré par ce type de prospective, une forte croissance des actifs immobiliers, des taux d'intérêt maintenus très bas, la question centrale de l'évolution de la répartition de la richesse, la fin du mythe de l'homme de Davos et la victoire de la société de l'usage et ses conséquences immobilières. Xavier Lépine, bonjour.
Bonjour.
Qu'ajouteriez-vous, 6 ans plus tard, à ces paramètres? Il faut reconnaître que c'était quand même formidablement bien ciblé et je ne sais pas si beaucoup de bookmakers londoniens pariaient sur la confirmation de ces différents paramètres quelques années plus tard. On peut voir que c'est bien le cas. Qu'ajouteriez-vous aujourd'hui?
Par rapport à 2016, il s'est passé quand même un certain nombre de choses qui finalement ont eu plutôt tendance à accélérer ces phénomènes. Alors, je ne sais pas si c'est, je ne me rappelle plus très bien ce que je voulais dire par la fin du mythe de l'homme de Davos. Est-ce que c'était la fin du Saint-Simonien plutocrate au profit des GAFA? Mais enfin, c'est quand même un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'homme omniscient qui sait tout et les puissants qui se réunissent.
Et si j'ai bien compris l'article, je crois que c'était aussi l'homme qui privilégie les intérêts multinationaux, etc., sur les frontières qui sont des obstacles finalement à contourner.
Voilà. Tout à fait. Il y a cette idée-là derrière l'homme de Davos qui a du super capitalisme. Mais moi, je dirais surtout ce qui me marque finalement quand je regarde la situation aujourd'hui, c'est finalement la très grande incertitude aujourd'hui dans laquelle nous sommes face aux conséquences de la crise du Covid, d'une part, et puis de toute façon ce qui s'est passé réellement sur les 30 dernières années. Parce que quand on veut se projeter dans les 30 prochaines, il faut toujours regarder les 30 dernières. Or, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de création monétaire que de création de richesse dans le monde, singulièrement en France, et que cet excès de création monétaire est allé se porter dans les actifs, puisqu'il n'est pas allé se porter dans les biens de consommation, il est allé se porter dans les actifs. Alors évidemment, il est allé se porter dans les actifs financiers, ça on le sait, que ce soit les actifs d'actions, je rappelle que le multiple de création de richesses ou de bénéfices pour les entreprises a été gigantesque sur les 40 dernières années, puisque la bourse mondiale a été multipliée par 33, alors que l'inflation n'a été qu'entre 3 et 4 fois. Mais également dans l'immobilier, puisque l'immobilier de bureau a été multiplié par 8, alors que l'immobilier de logement, dans les zones tendues, a été multiplié par 10. Donc, il y a eu ce phénomène, très clairement, de création, d'injection d'argent dans des actifs immobiliers. Alors, pour autant, la grosse problématique de cela, c'est est-ce que ça a été satisfaisant pour la société en tant que telle? La réponse est quand même un peu duale. On peut dire oui, finalement, si on se compare à 1900, mais si on se compare il y a 100 ans, aujourd'hui, 99% des Français ont un logement. C'est mieux. Si on se compare il y a 40 ans, la situation s'est quand même plutôt dégradée, puisque vous apercevez qu'au total, en ce qui les conséquences de l'allongement de la durée de la vie qui fait qu'on a besoin de plus de logements, la conséquence des divorces également qui fait qu'on a besoin de plus de logements, fait qu'on se retrouve avec des zones très détendues, dans lesquelles il n'y a pratiquement pas de création de richesses, et dans des zones tendues où il y a eu un accroissement des prix qui devient problématique. Donc la question de l'évolution de la répartition de la richesse, elle est plus que jamais prégnante. C'est-à-dire que nous avons un accroissement des inégalités sociales entre ceux qui détiennent des actifs et ceux qui n'en détiennent pas, et singulièrement ceux qui détiennent leur appartement ou leur logement et ceux qui ne détiennent pas. Il y a une croissance des inégalités territoriales, puisque très clairement, il y a les zones tendues qui sont devenues inaccessibles et les autres zones dans lesquelles il n'y a rien eu. Et une croissance des inégalités générationnelles, puisque là également, on s'aperçoit que celui qui a eu la chance ou la malchance, c'est une question de point de vue, ça dépend de l'âge qu'on a, de naître, d'être un pur boomer ou baby boomer, se retrouve dans un niveau de richesse qui n'a rien à voir avec le jeune trentenaire ou les trentenaires. Alors bon, il est tout à fait normal et logique que quelqu'un de 60 ans ou plus ait une richesse accumulée qui soit supérieure à un trentenaire ou un quadra. C'est une question de proportion. Aujourd'hui, on voit bien que la problématique du logement est devenue un très gros problème pour les classes moyennes dans les zones tendues. Donc effectivement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de décélération de ce phénomène, il y a eu une accélération. Et aujourd'hui, la crise sanitaire a au moins le mérite de maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas pour probablement un certain temps et peut-être de donner des possibilités de nouvelles voies pour pouvoir inverser un peu cette tendance. Puisque l'immobilier est devenu un bien à intensité capitalistique extrêmement lourd. Moi, ce que j'ajouterais, peut-être pour terminer là-dessus, c'est qu'en fait, l'actif immobilier logement devrait être un actif d'efficacité économique, au même titre que les actions ou les obligations, ou d'ailleurs l'actif immobilier tertiaire, et en fait, c'est devenu un actif de rareté. Et un actif de rareté dont tout le monde a besoin, eh bien c'est extrêmement, c'est une bombe à retardement social et politique.
C'est très clair. Alors Paris est peut-être en train de redevenir la capitale mondiale du tourisme, même si il nous manque encore une large partie de la clientèle internationale, notamment en Asie. Et en face de cette caractéristique qui est au fond assez accrochée à l'image de Paris, à l'image historique de ces 100 dernières années depuis les expositions universelles, en gros, de Paris, je voudrais que vous nous précisiez quels sont, à votre sens, les enjeux du Grand Paris, en termes d'investissement, en termes de mobilité, en termes de ce que Christian Blanc, à l'origine, appelait les clusters avec Pierre Vels, etc.
Alors, on connaît tous le projet du Grand Paris, c'est un formidable projet, c'est un formidable accélérateur, même, excusez-moi l'anglicisme, game changer pour Paris. Paris n'avait pas bougé de ses frontières depuis plus d'un siècle et se retrouve à travers ce projet d'infrastructure de ces 68 gares, de doubler les voies d'accès sur Paris. Se retrouve effectivement en train tout simplement de doubler sa taille. Si vous prenez les un quart d'heure à pied autour une surface à un quart d'heure à pied des 68 gares, ça fait l'équivalent de la taille de Paris intramuros. Donc on voit bien que c'est complètement une possibilité de game changer pour Paris. Et donc l'enjeu, c'est pour moi, à mon sens, c'est de faire de Paris finalement la capitale de l'Europe. Puisqu'on voit bien que l'Europe est aussi la solution pour la France, et pour tout pays d'ailleurs. On a toujours eu du mal à comprendre pourquoi les Anglais avaient voulu sortir, mais on voit bien qu'il faut pouvoir lutter à armes égales dans un monde qui est globalisé. Donc l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est de capitaliser sur cette formidable image de Paris, parce que tout le monde connaît Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, en créant, et c'était effectivement le projet de Chris Cornblanc qui est en train de se réaliser, de créer des clusters, c'est-à-dire un cluster aujourd'hui, c'est un peu moins bonne presse depuis un an et demi, mais de créer donc des zones d'activité avec pour sa clé 40 000 chercheurs de toutes les disciplines pour Villejuif dans le domaine de la santé, le Bourget dans l'aéronautique, autour de Saint-Nizier et le Pleyel, tout ce qui est cinéma, enfin tout ce qui va tourner autour de ça. Et tout cela était extrêmement, non seulement intéressant, mais créateur de richesses, et d'organiser cela plutôt que de laisser de manière anarchique est une très bonne idée. Alors, maintenant, l'enjeu aujourd'hui de Paris, bon, on peut effectivement dire Paris aujourd'hui c'est la capitale mondiale du tourisme, ça pourrait très bien être la capitale mondiale du sport. Aujourd'hui, il n'existe pas, si vous faites une enquête, vous citez quelle est la capitale mondiale du sport, spontanément, les gens vont paraît-il, hein, dans les enquêtes, ils vont répondre Boston. Pourquoi ils disent Boston ? Parce qu'il y a eu des attentats pendant un marathon. Bon, on pourrait être aussi la capitale du droit, on pourrait être la capitale de la culture, parce que finalement, on sait très bien qu'il n'y a pas de développement de ville, enfin de région, sans culture. On voit bien le succès de Berlin, qui est devenue, après l'effondrement du mur, la capitale européenne de la culture. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que Berlin-Est était pas cher. Et donc là, on a vu progressivement tous les jeunes venir s'installer dans cet endroit, et on a eu les graffitis, on a eu tout, on a eu le street art, et petit à petit, ça a pris une place colossale. Nos banlieues sont objectivement encore peu chères. Donc on pourrait très bien envisager d'avoir une vision assez radicalement différente de ce que parce que finalement les gens ont besoin de quoi? Ils ont besoin de culture, surtout aujourd'hui. C'est quand même ce qui crée le lien social. Alors maintenant, ça c'est la vision, mais l'enjeu c'est quoi? Bah, si vous prenez Paris, c'est très intéressant, c'est la problématique de la gouvernance. Paris en 1914, vous aviez 3 millions d'habitants dans Paris intramuros, et vous aviez 100 000 personnes qui habitaient en banlieue. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de maire de Paris. Hein. Bon, j'ai oublié la date à laquelle il y a eu un maire à Paris. Je crois que ça s'est arrêté en 1793, et ça a dû reprendre près en 1980 ou quelque chose comme ça avec Jacques Chirac. Mais pendant très longtemps, il n'y avait pas de maire de Paris. En 1960, il y avait 3 millions d'habitants dans Paris. On était déjà à 5 millions d'habitants en périphérie de Paris. On est en 2021, nous n'avons plus que 2 100 000 habitants dans Paris, et on a 10 millions de personnes qui vivent autour de Paris. Bon, alors la gouvernance a évolué, puisqu'on a la métropole du Grand Paris, on a la région, on a Grand Paris Aménagement, on a beaucoup de choses qui sont faites, mais pour autant, on voit bien que intuitivement, hein, que le défi de l'enjeu de Paris, du Grand Paris, c'est d'avoir une gouvernance qui soit adaptée, qui soit peut-être adaptée au fait que bah il n'y a pas Paris d'un côté avec ses 2 millions d'habitants et puis 10 millions de gens qui gravitent autour, qui doivent traverser, contourner. Voilà, on a à mon sens un enjeu très fort d'organisation de notre société qui représente, de notre Grand Paris qui représente 23% des habitants français et 30% du PIB. Et ça, c'est cette dynamique qu'il faut continuer d'organiser.
D'accord. Au passage, qu'est-ce que le fonds de dotation de la Société du Grand Paris ?
Alors, la Société du Grand Paris, c'est donc ce SPV, ce Special Purpose Vehicle qu'a créé l'État pour réaliser le chantier du Grand Paris, qui a été créé en 2010 de mémoire, et qui maintenant construit les lignes de métro et les gares, et qui, ces gares, elles commencent à être livrées, il y en a un tout petit peu, elles vont être beaucoup livrées en 2024, et ça devrait, espérons-le, se terminer en 2030. C'est quand même le plus grand chantier d'Europe du XXIe siècle, avec 45 milliards d'infrastructures, enfin 40, 45, le prix s'oublie, la qualité reste. Et maintenant, peut-on envisager de faire un projet d'infrastructure sans dimension culturelle et artistique ? C'est la question qui est posée. Est-ce que ça doit être juste un moyen de transport et on reproduit finalement, alors certains peuvent trouver très beau les gares RER et l'aménagement autour. Certes, ça correspondait à une époque. Notre époque est différente. Et donc là, le fonds de dotation d'art et de culture de la Société du Grand Paris, dont a été créé il y a 5 ans à l'initiative du président de la SGP de l'époque, Philippe Yvin, avec Rémi Babinet de BETC et moi-même, avec comme vocation de faire participer la société civile, et notamment les entreprises, à l'introduction de l'art et de la culture dans ces projets-là. Alors il y a les fameux tandems, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a 68 gares et il y a 25 architectes différents. L'idée étant de dire qu'il faut refléter la diversité du Grand Paris et ne pas avoir des choses purement identiques d'une gare à l'autre, avec comme seule contrainte l'architecture autour ou la géologie, donc d'avoir vraiment des œuvres, enfin que ce soit des œuvres d'art, ces gares, en tant que telles. Et là, l'idée a été d'associer à chacune des gares, dès le départ, enfin très en amont, un artiste pour intégrer des œuvres d'art dans chacune de ces gares. Et donc le fonds de dotation des Grands Paris a pour vocation d'aider à réaliser cela en apportant modestement, parce que l'essentiel de ces œuvres d'art seront financées sur le budget de la Société du Grand Paris, mais de faire participer, comme dans tout grand projet d'infrastructure, ce n'est pas particulier, historiquement, il y a toujours eu ça dans toutes les sociétés avec un grand S dans le monde. Et voilà, donc ça, c'est c'est la dimension art et la dimension culture. C'est vrai qu'il faut associer les populations, à ces constructions. Donc on fait des événements qu'on appelle des KM, les kilomètres, avec les gigots bitumes, avec des artistes qui viennent, qui font participer les habitants des villes périphériques à ces chantiers, à ces énormes chantiers on ne se rend pas compte de ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'on est le nez dedans, mais c'est juste une transformation radicale. Et de temps en temps, de faire des fêtes, de faire des points, nous semble assez indispensable.
Merci Xavier Lépine, et à bientôt.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.